Voilà, nous arrivons à la leçon 18 de la Bible en 24 heures, la 18e heure. On aura à la fin de cette leçon vu les trois quarts de la Bible. On survole bien sûr, mais on va donc voir ce soir, on va prendre le temps de juste de, pour cette fois-ci. On a fait les évangiles, la semaine de la Passion. On a fait le livre des Actes, et là on va consacrer cette session à la lettre de Paul aux Romains. Parce que c'est un des passages clés de la Bible. Certains l'ont appelé l'Évangile selon Paul. C'est un livre remarquable, à plus d'un titre. Tout le monde l'a peut-être déjà regardé un peu, étudié, pas beaucoup, un peu. C'est un élément fondamental pour la foi du chrétien de bien comprendre l'épître de Paul aux Romains. Ce livre a eu un grand impact dans l'histoire de l'Église. C'est souvent lorsque les gens ont été touchés par ce livre qui a eu des mouvements de réveil ou des nouveaux départs de vitalité dans l'Église, parce que ce livre parle de la grâce de Dieu qui est presque l'opposé de ce qu'on appelle traditionnellement la religion. La religion, c'est souvent des choses à faire pour essayer d'attirer la bienveillance ou la faveur de Dieu, alors que tout le message de la Bible, c'est que Dieu veut nous bénir et qu'il nous demande de recevoir cet amour, et que si on le fait, on est au bénéfice de cette grâce et que tout change. Ce message, il a tendance à se perdre, parce que dans notre vieille nature, on a tendance à vouloir baser l'amour de Dieu sur notre valeur ou nos mérites. Et même si on commence bien en disant « j'y suis pour rien, c'est Dieu qui m'aime, tout ce qu'il me demande c'est de recevoir cet amour », une fois qu'on commence à marcher en tant que chrétien, où on a tendance à nous glorifier de nos efforts et à penser que quelque part c'est un peu parce qu'on est spécial que Dieu veut nous aimer. Et dans l'histoire, par exemple, c'est le livre qui a conduit à la réforme au XVIe siècle. Martin Luther a été frappé, c'était un prêtre catholique, mais il était frappé de voir la corruption qu'il y avait dans l'Église catholique à l'époque et le fait qu'on vendait des indulgences, c'est-à-dire qu'on demandait de l'argent aux gens pour que leur âme soit sauvée, que leurs péchés soient pardonnés. Et ça le gênait beaucoup, et il cherchait vraiment dans la Bible, et c'est en tombant sur un passage de Romains que la lumière s'est faite et qu'il a décidé de s'éloigner du pape, de la doctrine catholique, et de revenir à la Bible. C'est ce qui a conduit à la naissance du protestantisme. Et puis plus tard, Wesley, qui est le père du méthodisme, un des mouvements évangéliques en Angleterre au XIXe siècle, lui aussi c'était en lisant et en étant interpellé par ce livre qu'il a compris qu'il y avait quelque chose de différent à chercher. Alors le style de cette lettre, c'est très différent de certains évangiles. Là, en Paul, on le sait par le livre des Actes et par ses lettres, on avait quelqu'un de très instruit. C'était pas un berger ou un pêcheur comme Pierre qui avait jamais fait d'études. C'est quelqu'un qui avait fait les meilleures études de l'époque avec le rabbin Gamaliel, qui était la plus haute autorité en matière d'éducation. Et il y a un aspect international dans Paul, parce qu'il était citoyen romain, Il vivait donc à l'époque de l'Empire romain. Il avait un arrière-plan hébreu, il connaissait la culture hébraïque, il était hébreu des hébreux, il le dit lui-même. Il connaissait bien la culture grecque aussi, il écrivait ou il dictait sa lettre en grec. Et donc, c'est un livre qui est un chef-d'œuvre, écrit par le Saint-Esprit, mais transcrit par Paul et par son secrétaire, on le verra à la fin. C'est un livre remarquable parce que la logique qu'on y trouve est digne des plus grands mathématiciens, des plus grands savants exigeants au niveau de la logique. Ça peut vraiment être un sujet d'étude pour les plus instruits, les plus sophistiqués. En même temps, ça peut toucher la personne la plus simple et amener à la repentance. Et on sent vraiment que même l'intellect de Paul n'arrive pas à saisir Dieu. Dieu nous dépasse, et c'est une bonne chose, parce que, comme quelqu'un le disait, si un Dieu était assez petit pour qu'on le comprenne, que notre intelligence le saisisse complètement, il serait sans doute pas assez grand pour notre besoin de salut, de pardon. Alors Paul, vous vous souvenez, il s'appelait Saül au départ, on en a parlé dans Actes 9, on a vu que la deuxième partie du livre des Actes, c'était un peu son histoire à lui avec ses disciples, avec les disciples qui le suivaient. Mais il a pris le nom de Paul, qui veut dire le petit, le moindre, parce qu'il se sentait, une fois qu'il a compris la grâce de Dieu, il a réalisé qu'il n'était rien du tout. Il s'est même appelé le pire des pécheurs. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était très, très engagé, qui avait une passion pour le Christ. Et l'intérêt, c'est de se dire que si Dieu a pu sauver Paul, qui était l'exterminateur des chrétiens, c'était en ça qu'il était le plus grand pécheur, et en d'autres choses. Mais s'il peut sauver lui, ça veut dire qu'il peut sauver Mahmoud, oui, il s'appelle le président de l'Iran. Mahmoud Ahmadinejad. Il peut sauver n'importe qui, il peut sauver la personne la plus opposée à Dieu, la plus rebelle, la plus pervertie qui soit. Vous avez fait remarquer qu'en fait, Romains 12, ça s'adressait plutôt à des chrétiens. Et parce que dimanche dernier, lorsque James a prié là-dessus, ce n'était pas vraiment quelque chose pour le non-chrétien, il y en avait quelques-uns, au moins un. Et c'est vrai que c'est écrit pour des chrétiens, c'est pour des croyants, c'est pour nous enseigner, nous qui avons déjà reçu. C'est pas vraiment quelque chose pour de l'évangélisation, quoi qu'il y ait beaucoup de choses et que ça puisse être une bonne lecture. Alors, en gros, le plan de cette lettre, il y a de la doctrine. À chaque fois que Paul commence par la doctrine, avant de passer à la pratique. Les chapitres 1 à 8, ça parle de la foi. Les chapitres 9 à 11, c'est une espèce de parenthèse sur Israël. Mais c'est une parenthèse essentielle parce que on verra que Paul se pose une question. Il aime bien se poser des questions, anticiper les questions qu'on va lui poser. C'est des questions un peu rhétoriques. Et il donne une réponse pour les gens qui vont se poser cette question. Puis la dernière partie, les versets 12 à 16, c'est la pratique, c'est l'amour en marche, c'est l'amour en pratique. Le verset clé de cette lettre, on parle d'un verset clé, c'est un peu un condensé, c'est un peu le résumé de la lettre, du texte ou du livre. Ici, ce serait Romains 1, versets 16 et 17. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il y est écrit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je me souviens, j'emmenais mon beau-frère qui nous avait conduit à la foi et je l'emmenais à l'aéroport. Il allait partir pour être missionnaire au Népal. Il est resté plusieurs années avec sa famille, sa femme et ses deux enfants. Et je lui ai demandé quel est le verset auquel tu t'accroches là quand tu pars comme ça pour être missionnaire pendant plusieurs années au Népal, loin du monde, loin de ta famille, dans un monde où tu ne connais pas la langue, tu ne connais personne. Et il m'a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est le salut, c'est une puissance de Dieu pour saluer de quiconque croit, tous les hommes. Et c'était son verset, c'est un très bon verset, je n'ai pas honte de l'évangile. Des fois on a un peu honte, je me rappelle quand j'étais devenu nouveau chrétien, j'avais peur que les gens rient un peu de moi. Et j'ai lu ce verset, je n'ai pas honte de l'évangile. Il n'y a pas à avoir honte de croire à la vérité. Et pourtant, c'est vrai qu'on est conditionné quand on est nouveau chrétien au départ. On peut être un peu timide pour parler de sa foi. Mais ce verset nous dit, c'est une puissance de Dieu. C'est le mot qui a donné au frère Nobel le mot dynamite. C'est pas l'inverse, hein, c'est pas la dynamite qui a donné le mot. Mais c'est le mot dunamos, c'est la puissance active, explosive pratiquement, que Dieu utilise pour sauver les gens. La bonne nouvelle de l'évangile. Et l'évangile, c'est pas un code de morale, c'est pas un code d'éthique, c'est pas une confession de foi, c'est pas des bons conseils pour vivre. C'est un message qui raconte comment Jésus-Christ est venu résoudre notre problème. Et quelque part, en venant nous sauver, il a aussi sauver ce qui peut nous sembler comme un problème pour Dieu. Et ce problème, ce serait le dilemme, comment est-ce qu'il peut aimer les pécheurs et punir le péché? Comment est-ce qu'il peut être fidèle à sa justice, ne pas se compromettre avec le péché, tout en restant fidèle à son amour, ne pas détruire l'homme qui pêche? Et c'est en venant à la personne de Jésus et en lui faisant porter nos péchés, en le punissant lui, que Dieu a résolu ce problème apparent pour notre petite intelligence. Mais ça, c'est l'évangile. La lettre aux Romains, ça parle, c'est peut-être la lettre, le texte dans la Bible qui parle le mieux de la grâce. La grâce, c'est quoi, à votre avis? Vous vous souvenez, vous avez une définition, si on vous demande qu'est-ce que c'est que la grâce?
C'est le don gratuit. J'ai vu que c'est un don gratuit de Dieu.
C'est l'amour de Dieu qui nous est offert comme un cadeau, qu'on n'a pas à mériter. C'est l'amour non mérité. C'est merveilleux. Et c'est, quand on dit don gratuit, il faut faire attention de bien préciser que c'est gratuit pour nous, mais ça a coûté très cher à Dieu. C'est un peu comme si quelqu'un nous offre un cadeau somptueux, je sais pas, une voiture, et tout ce qu'on a à faire, c'est de l'accepter. Pour nous, c'est gratuit, mais ça a coûté à quelqu'un. Et dans ce sens, c'est la grâce de Dieu. C'est la meilleure explication dans la Bible. C'est vraiment la clé pour bien comprendre comment Dieu est venu nous racheter. Et de comprendre le plan du salut. Alors ça, c'est présent dans les autres livres, dans les autres évangiles, mais là, c'est c'est vraiment bien exposé. C'est quelqu'un disait que c'était pas Christ n'était pas venu pour transformer des hommes qui étaient mauvais en hommes qui seraient bons. En fait, il est venu pour donner la vie à des hommes et des femmes qui étaient morts. Nous sommes morts, après il le dira plus loin dans Éphésiens, nous sommes morts dans nos péchés. Et c'est important de bien comprendre ça. Et par exemple, dans le fils, la parabole du fils prodigue dans Luc 15, est-ce que le père dit « Je vais faire la fête parce que mon fils est devenu bon » ? Vous vous souvenez de, on peut regarder rapidement. Oui, dis-moi.
Il était perdu.
Oui, c'est ça. Luc 15, c'est à partir du chapitre 11, mais on va aller regarder le verset 32 à la fin du chapitre 15. Vous vous souvenez, c'est le frère qui a toujours bossé, qui reste à la maison, qui n'a pas fait la fête, qui est un peu jaloux de la fête que son papa fait pour son frère qui est parti dépenser toute sa fortune, qui a fait la grande vie, qui s'est retrouvé à manger avec les cochons et qui finalement est revenu à son père, qui l'attendait, qui se réjouit de le voir. Et il lui dit, il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ça s'applique à tous les hommes. L'amour du Père, il attend qu'on revienne à lui. On était mort et il veut qu'on revienne à la vie. Nous sommes perdus, il veut nous trouver, il veut qu'on soit trouvé. Le premier verset, donc plutôt le verset clé, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Dans quel but ? C'est pas pour nous transformer, pour nous réformer, pour nous faire changer, pour nous rendre mieux, pour nous parfaire. C'est pour le salut. C'est un message qui est fait l'Évangile pour les hommes perdus. Et tous les hommes sont perdus, mais il y en a qui réalisent qu'ils sont perdus. Et c'est ceux-là qui vont être sauvés. Et soit on est sauvé, soit on est perdu. Il n'y a pas 36 solutions. Pas 36 degrés de salut ou de... Des questions, non ?
Oui, on est quand même transformé.
Tout à fait, mais la puissance de Dieu, c'est d'abord pour le salut. On va voir que le salut, tu as raison, ça recouvre plusieurs aspects. On va y venir. Et c'est vrai que si on n'est pas transformé, on peut se demander si la piqûre a pris, quoi. Si la transformation, si le message a été reçu vraiment. Ce verset, le juste vivra par la foi, en fait, ça vient, on en a déjà parlé, ça vient des petits prophètes, du prophète Habacuc 2:4. Et ce verset est en fait commenté par trois livres du Nouveau Testament, par Romain. On le voit ici, il le cite dans 1:17. Et ça répond à la question, le juste, qui est-ce ? Qui est juste ? Et puis, Galates 3:11 va encore citer ce verset de Habacuc. Ça va répondre à la question, comment est-ce que le juste va vivre ? Le juste vivra, comment est-ce qu'il va vivre ? Et puis, dans Hébreux 10, 39, il est encore question de ce verset, et la lettre aux Hébreux, c'est un commentaire sur le fait que le juste va vivre par la foi. Donc, certains pensent que c'est vraiment comme une espèce de trilogie, ces trois livres qui parlent de, qui sont un commentaire de ce verset, le juste vivra par la foi. On sait que les deux premiers ont été écrits par Paul, Romains et Galates. Il y a eu un doute par rapport à Hébreux, mais cette unité dans le commentaire de « Le juste vivra par la foi » font que certains Je trouve que c'est un argument pour le penser que c'est Paul qui est aussi l'auteur de la lettre aux Hébreux, mais ça, on en est moins sûr, on n'est pas sûr absolument. Ce livre nous permet de rencontrer un peu Dieu tel qu'il est. Notre problème à nous les hommes, c'est de nous faire un Dieu à notre image. Dieu nous a créés à son image, mais nous on a une tendance à nous créer un petit Dieu à notre image. Quelqu'un qui oublie, quelqu'un qui n'est pas très, très rigoureux, quelqu'un qui n'est pas très... qui n'est pas très juste, qui pêche de temps en temps, qui laisse passer les choses. Et là, en fait, dans ce chapitre 1, on voit la vérité quant à notre condition de pécheur. L'homme païen est jugé. Et on va lire un peu les versets 1 à la 18, la fin du chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les imperfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. De quoi est-ce que ça parle, ça, ça, ça se... Il nous dit qu'en fait, les hommes ont accès à la vérité de Dieu, même de façon naturelle. Et il y a deux éléments là qui sont mentionnés. C'est quoi ça? On va continuer. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes remplaçaient les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieurs au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Et là, Dieu dit qu'en fait, les hommes sont jugés parce qu'ils ont supprimé la vérité de Dieu. Pourtant, cette vérité de Dieu, ils peuvent la reconnaître par la nature. Les perfections visibles de Dieu se voient fort bien depuis la création du monde. On peut voir les ouvrages de Dieu. On peut voir la beauté de la nature. Et on se dit que, à moins d'être... d'avoir un parti pris de dire qu'on n'est vraiment qu'un accident, qu'on peut faire n'importe quoi, on se dit, il y a un Dieu derrière tout ça, il y a un Créateur. Il fait référence aussi à notre la façon dont on peut violer notre conscience quand on et la conscience aussi, ce sens du bien ou du mal, c'est aussi quelque chose qui doit nous conduire à Dieu. S'il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal, d'où vient cette notion du bien et du mal si ce n'est Dieu? S'il n'y a vraiment pas de Dieu, alors je suis désolé, mais vous ne pouvez pas me reprocher d'aller tuer quelqu'un, vous ne pouvez pas me reprocher d'aller faire du mal à autrui. En fin de compte, si on a ce sentiment du bien et du mal, c'est parce qu'il y a Dieu qui nous l'a mis dans le cœur. Ils ont ignoré la révélation de Dieu, ils remplacent la vérité par des choses fausses. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont prêts à se battre pour les baleines, mais ils vont vénérer la création au lieu de vénérer le Créateur. Et puis, c'est intéressant, il parle aussi c'est une espèce de spirale à l'envers. C'est pas un progrès, c'est une dévolution. C'est pas une évolution, c'est une dévolution morale. Et Dieu, tout ce temps, les laisse s'enfoncer plus bas comme une punition. Une punition en espérant peut-être que d'arriver à un acte, un degré encore plus bas, peut-être ça va les faire revenir à leur sens, un peu comme le fils prodigue a retrouvé ses sens lorsqu'il s'est retrouvé à manger avec les cochons qui lui laissaient sans doute pas les meilleurs morceaux. Il dit, mais je suis fou, moi, qu'est-ce que je fais? Je mangeais bien chez mon père. Et tout ce qui est sexualité dévoyée, les questions ici d'homosexualité masculine ou féminine, en fait, c'est présenté comme des punitions de Dieu. Les hommes qui se livrent à ça, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler, tu avais des amis qui voulaient voir ce que le chrétien pensait de l'homosexualité. Dieu est contre l'homosexualité. C'est une abomination à ses yeux. Dieu aime les pécheurs et nous devons faire la même chose. Nous devons haïr le péché et aimer les pécheurs. Nous devons être plein d'amour pour les homosexuels, mais nous ne devons pas aller encourager l'homosexualité en disant que c'est simplement une maladie. Non, c'est une punition de Dieu. Dieu les a livrés à l'impureté parce qu'ils ont pas, ils ont rejeté la vérité. Et nous, ce passage aussi, on est tous redevables. On n'a pas d'excuses. On ne peut pas dire, oh, mais j'ai pas su. Non, non, non. Il y avait assez dans ce que Dieu nous a fait connaître par la conscience, par la création, pour savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas à faire. Et son jugement, c'est de nous laisser à nous-mêmes dans notre péché. Et il nous abandonne à un style de vie dépravé. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance, Dieu les a livrés. Cette expression, Dieu les a livrés à des passions, Dieu les a livrés à l'impureté, Dieu les a livrés. C'est une espèce de punition judiciaire qui est en elle-même peu. On peut penser que dans l'esprit de Dieu, c'est pour nous amener à nos sens, pour nous réveiller. Mais ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée, et toutes les choses indignes, toutes les sortes de péchés, y compris la rébellion envers les parents. Pourquoi est-ce que c'est si grave la rébellion envers les parents? On peut dire, bon, c'est un petit, c'est pas bien grave, quoi, c'est mignon. Il pique une petite colère. Oh, il est mignon, Benjamin, quand il se met en colère. Non! C'est la rébellion à l'autorité qui va grandir en rébellion envers les autorités civiles, envers l'autorité suprême qui est Dieu. À la fin, c'est Dieu qui va être jeté. On est tous redevables, aussi bien les païens, on n'a pas le temps de lire en détail, que l'homme qui pense être moral. Ça, c'est au chapitre 2, versets 1 à 16. Toi, tu es donc inexcusable, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, parce que toi qui juges, tu agis comme eux. C'est bien souvent le cas quand on juge les autres, en fait on ne fait pas mieux qu'eux, on essaie de mettre le flash sur leur culpabilité, sur leur péché, pour éviter d'être dans la lumière. Et même l'homme religieux, l'homme qui, verset 17 du chapitre 2, toi qui te donne le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, etc., tu ne vaux pas mieux qu'eux. Tu déshonores Dieu, verset 23, par la transgression de la loi. Il parle au chapitre 3 de l'universalité, universalité du péché, il n'y en a pas un qui vaut mieux que les autres. Tout ce temps que nous sommes, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est le chapitre 21 qui commence. « Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Verset 20, et puis verset 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Ça, c'est majestueux, c'est fantastique, c'est révolutionnaire, vous pouvez chercher tous les épithètes, ce « mais », c'est le « mais » du salut. Nul ne peut être déclaré juste par ses propres efforts de respecter la loi. Et c'est incroyable. Et il y avait Socrate qui écrivait à Platon, il se peut que les dieux puissent pardonner les péchés, mais je ne vois pas comment ça pourrait se faire. Il y a vraiment le fait que la rédemption, c'est par Jésus-Christ. Le rachat, c'est par le sacrifice. C'est incroyable. Et c'est en cette semaine de Pâques, on doit vraiment être frappé par ce que Jésus a fait, comment Dieu a résolu le problème de sa justice et de son amour en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi ? C'est en fait pour nous faire connaître le péché. Souvent on pense que la loi c'est une façon d'accéder à la grâce de Dieu ou à la bienveillance de Dieu. Si on fait ça, si on fait ça, il va nous aimer. Mais en fait il nous l'a donné, non pas pour qu'on y arrive tout seul, mais pour nous montrer qu'on est complètement incapable d'y arriver. Il dit même que la loi a été donnée afin que le péché abonde. C'est pour nous enlever toute possibilité d'excuser notre nature de pécheur, de nous faire réaliser qu'on est vraiment digne de péché, digne de mort à cause de notre péché. On va continuer. On n'a pas le temps de tout commenter. Il prend l'exemple d'Abraham pour leur montrer que même les plus grands, Abraham, David, ont été sauvés par la foi, non pas par leurs œuvres. Il dit que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. C'est les grandes choses qu'il aurait pu faire dans sa vie, c'est sa foi lorsqu'il a cru à la promesse de Dieu, qui était une promesse dans le Messie, même si ce n'était pas clair. Cela lui fut compté comme justice. Fin du verset, chapitre 4. Il parle dans le chapitre 5 de deux Adam. Il fait l'ancien Adam, le premier, c'est l'homme, et le dernier Adam, c'est le Christ. Et il explique que, en fait, par le premier Adam, le péché est entré dans la race humaine, et maintenant, dans le dernier Adam, le salut peut être aussi offert à toute la race humaine. Il parle au chapitre 6, Il nous demande que le péché ne règne pas dans nos vies. Et on peut... On peut se dire, c'est bien beau, mais comment on fait ça? De ne pas laisser le péché régner dans notre vie. C'est d'abord une réalisation que ce que Dieu dit, est la vérité, qu'on peut vraiment en faire la base de notre vie. Et il y a un mot qui revient, c'est le mot de se considérer comme mort au péché, comme vivant pour Jésus-Christ. C'est une façon de réaliser qu'on peut voir les choses avec la vue de Dieu et réaliser que j'ai la capacité de décider, de choisir. Je ne suis pas obligé de pécher. Je peux me considérer comme mort au péché. Et lorsque j'ai une tentation, je peux dire « Désolé, je suis mort à ce genre de choses. J'ai plus besoin d'y succomber. » Et ça rejoint ce dont on parlait, on le verra au chapitre 8, mais c'est ce qu'on appelle des fois les trois temps du salut. Au passé, on a été sauvé, à un jour donné, à un moment, on a mis notre foi, et c'est ponctuel, c'est ce que Paul appelle la justification. On est déclaré juste par Dieu, et c'est comme un coup de tampon sur un visa où on dit bon pour le service, où vous pouvez séjourner ici, vous avez le droit de rester. C'est comme un coup de tampon, on est déclaré juste, on est déclaré en accord avec les exigences de justice de Dieu. Et le deuxième temps, c'est le moment. Ça, c'est le passé. On peut regarder, je suis chrétien parce qu'à un moment donné, j'ai dit, je mets ma foi en Jésus. Et à ce moment-là, même si j'ai rien ressenti, j'ai été sauvé. On est sauvé au présent. Donc, on a été sauvé de la punition du péché. On a été sauvé de ça, par la justification. On n'est plus sous le, on va plus être condamné à mort. Parce qu'on a cru en celui qui a pris la mort à ma place. On est sauvé au présent de la puissance du péché. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est cette transformation, ça prend du temps, c'est progressif. Par opération, moment par moment, on tombe, on se relève, on progresse, on est sauvé de la puissance du péché. On n'est plus obligé de dire oui au péché. On peut dire non. Et c'est là qu'on considère que on est mort au péché et on fait des progrès. On se décourage. Mais, au fin du compte, il doit y avoir une transformation. Comme tu lui disais, s'il n'y a pas de transformation dans ma vie, alors peut-être que je n'ai rien compris, que je ne suis pas vraiment sauvé. Et puis, il y a un salut au futur. C'est « nous serons sauvés ». Ça, Paul va en parler de la rédemption de notre corps, de nos corps, dans Romains 8, 23. Nous serons sauvés de la présence du péché. Il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de péché. C'est ce qu'on appelle aussi la glorification. Donc il y a une espèce de parallèle. Le passé, c'est la justification. Le présent, c'est la sanctification. Le futur, c'est la glorification. Le passé, c'est ponctuel. Le présent, c'est progressif. Le futur, c'est éternel. On sera pour toujours dans la gloire avec Dieu, dans la rédemption de nos corps. Le chapitre 7, c'est juste pour une illustration du salut. Quand j'habitais aux États-Unis, je ne l'ai pas fait, je le regrette, j'aurais dû le faire, demander à être naturalisé, avoir la citoyenneté américaine. Avoir la double nationalité, c'était pas possible au départ, donc j'ai pas essayé, puis j'ai pas suivi les évolutions des lois, il y a un moment j'aurais pu le faire. Et si je l'avais demandé, je vivais là-bas, je travaillais, j'étais impliqué dans une église, Un beau jour, on m'aurait donné un coup de tampon, pof, vous êtes un citoyen américain. Et ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, j'aurais aimé le root beer, que j'aurais pris les habitudes des gens qui sont nés, qui ont grandi là-bas. Mais progressivement, en vivant là-bas, je serai devenu de plus en plus américain. Quand je reviens en France, je pars comme ça et je mange du Coca, je bois du Coca-Cola avec le camembert et oh là là. Et ça, c'est la différence entre la justification et la sanctification. Non pas que de devenir américain, ce soit un travers. C'est là que la comparaison s'effondre et on continue. Chapitre 7. C'est un chapitre très important parce que Paul parle du conflit, de la difficulté à avoir la victoire. Parce que la loi ne nous libère pas du péché. Elle nous montre notre nature de pécheur. Verset 7 du chapitre 7, il dit « Je n'ai connu le péché que par la loi. » Si on ne me dit pas que quelque chose est interdit, je vais le faire, je ne saurais même pas que c'est mal. Si je suis nouveau dans un pays, qu'on me dit « Voilà, il faut ralentir quand il y a un panneau qui te dit la vitesse limite. » Imaginons qu'il y ait eu à côté d'une école un panneau de limitation de vitesse ait été enlevé par accident ou déjà suite d'un accident peut-être, et je vais conduire à 100 à l'heure alors qu'il peut y avoir des enfants. La loi me dit ta conduite est dangereuse ici. Si je, dans ce sens-là, il dit qu'il a connu la convoitise parce que il a réalisé qu'en fait la loi lui disait tu ne dois pas désirer ce que les autres ont. Et il s'est aperçu qu'en fait, dans son cœur, il y avait des moments où il voulait avoir le cheval qu'avait peut-être son collègue ou son voisin. Et il explique donc que la loi a été donnée pour nous faire réaliser. Et il a un moment de grande transparence qui en même temps est rassurant, parce que ce qu'il décrit au verset 15, « Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si je ne veux pas, si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir. » Le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et là, il se bat, il dit je ne fais pas le mal que je ne veux pas faire et le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais c'est impossible. Et il dit malheureux que je suis, verset 24, qui me délivrera de ce corps de mort? Et puis il va venir au chapitre 8 à la solution, mais c'est le fait qu'il y ait ce combat. Je me souviens de personnes qui me disaient en fait si je suis devenu chrétien c'est parce que j'ai lu ce passage. Et j'ai réalisé que ce n'était pas artificiel en disant que tu deviens chrétien, tout va bien aller, tu t'en fais pas. Il y a ce combat que, si on est honnête, on voit dans nos membres. Et il dit qu'en fait, il y a une loi qui lutte contre la loi de son intelligence. On peut comprendre ces choses. C'est la loi du péché qui est dans ses membres. Notre vieille nature, même si elle est morte, si elle est crucifiée, elle essaye de nous faire pécher, elle continue de pécher. Et puis, il dit malheureux, qui va me délivrer? Il ne dit pas qu'est-ce qui va me délivrer, quoi va me délivrer, il dit qui va me délivrer. Et là, verset 25, il commence à louer Dieu, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Mais verset 8, 1 du chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair, la vieille nature, la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Il y a deux lois qui s'opposent, un peu comme la gravité. Un peu comme un avion qui doit lutter contre la gravité qui l'envahit vers le bas, qui le fait chuter, et la loi de l'aérodynamisme qui fait qu'avec la force des ailes et la vitesse de l'avion, il va y avoir une force qui va l'enlever, le soulever vers le haut. Et c'est ce qui se passe dans la loi avec le péché, et puis la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. À un moment donné, lorsqu'un avion décolle, c'est parce que la force vers le haut va être plus forte que la force vers le bas. Et c'est là qu'il va y avoir la victoire. Et c'est ce qu'il explique au chapitre 8, qui est peut-être le grand chapitre du livre de Romains. On est délivré de la chair, non pas par nos efforts, en essayant d'appliquer la loi, mais en faisant par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Ça, c'est la grande révélation de ce chapitre 8, c'est que je ne peux pas y arriver seul en essayant d'obéir à la loi, mais si je laisse l'Esprit Saint me contrôler, la puissance de son Esprit va me délivrer de la chair et je vais avoir la victoire. Et donc les versets 1 à 11, il explique ça, que nous sommes, c'est l'esprit de, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise, verset 9, de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si vous êtes chrétien, l'esprit de Dieu est en vous. Et si Christ est en vous, verset 10, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus dans la tombe. C'est le même esprit qui est Dieu, qui vient habiter en nous et qui va nous donner la vie. Et puis, il explique... Frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre encore selon la chair. Nous sommes libérés. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le fait que nous sommes des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Ça, c'est par l'Esprit que ça peut se passer. Et puis, il explique, verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers, héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Puis, il parle de la gloire à venir. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et... la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, parlant de Satan. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous qui avons les prémices, les premiers fruits de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en attendant l'adoption en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il explique que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et puis, il arrive là, c'est un peu comme si on a monté l'Himalaya, là on arrive près de l'Everest, on arrive au sommet. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est drôle, j'ai reçu une publicité d'un rassemblement un peu trop charismatique à mon gré, et il citait ce verset en disant « Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et en moi-même, je me disais « C'est intéressant parce que il laisse la deuxième partie de ceux qui sont appelés par Dieu selon son dessein. » Et je me disais « Ça explique peut-être pourquoi son enseignement n'est pas complet et n'est pas équilibré. » Mais si vous aimez Dieu, si vous avez été appelé par Dieu, alors tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive, ça concourt à notre bien, ça a une valeur dans le plan de Dieu. Alors c'est un verset qui est absolument prodigieux dans le sens où il peut nous encourager énormément. On peut le comprendre intellectuellement, on ne sait pas comment on va vivre les choses tragiques qui peuvent arriver dans notre vie, les difficultés. On peut penser qu'au moment voulu, ce verset nous donnera la force, que Dieu se montrera fidèle à cette promesse, que même les choses les plus difficiles, et je vous laisse à chacun imaginer la chose la plus terrible que vous redoutiez, qui vous arrive, que vous puissiez redouter, même ces choses-là, Dieu peut les utiliser à bon escient pour son plan. Et il explique en fait que Dieu est en dehors du temps. Donc il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés. C'est souvent un problème, on dit, mais la prédestination, c'est pas la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il y en a qui décident, vont être sauvés. En fait, on sait que Dieu est en dehors du temps. Le passé, le présent, le futur, il voit tout d'un seul lieu, d'un seul œil. C'est pour ça qu'il parle de ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les voit même comme glorifiés. Maintenant, quand il voit Frédéric, quand il voit Vigo, quand il voit Daniel, quand il voit Nancy, j'espère quand il voit Pierre, il ne voit pas pécheurs en train de nous débattre, il nous voit déjà glorifiés, dans la gloire. Parce que pour lui, il n'y a pas de temps. Nous, on est sur le bord de la route, on voit les événements passer et on est coincé dans le temps. Mais lui est en dehors du temps. Et puis, verset 31, « Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui par grâce? Il nous a donné le cadeau le plus précieux qu'il pouvait faire. Est-ce qu'on peut croire qu'il va nous refuser les choses dont nous avons besoin, les cadeaux qu'on aimera s'ils sont selon sa volonté? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. On n'a pas à redouter les accusations de l'ennemi. C'est Dieu qui nous a pardonnés. Il sait ce que Satan peut lui dire, il voit tout, il n'est pas aveugle. Mais nos péchés, parce que nous sommes en Christ, il les pardonne, il les oublie. Ils sont aussi loin de nous que l'Orient est loin de l'Occident. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est mort, et celui qui est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ce n'est pas Jésus qui va nous condamner, il est mort pour nous et en plus il prie pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et là, il pense à tout ce qu'il peut imaginer, la tribulation, les épreuves, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Il essaye d'imaginer tout ce qui pourrait nous séparer de Dieu et de son amour, et dit qu'en fait, il n'y a rien. Il est persuadé, il est arrivé en étudiant en hébreu, en faisant ses recherches, en passant du temps avec Dieu, il est arrivé à la conviction intime, inaliénable, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Ça, si ça ne nous réconforte pas en tant que chrétien, alors rien ne nous réconfortera. Et puis je disais, après il fait une parenthèse au sujet d'Israël, chapitre 9, 10 et 11. Il fait cette parenthèse parce qu'en fait, il anticipe une question. Et cette question, c'est de se dire, mais est-ce que si Dieu est fidèle à sa parole, hein, puisqu'il nous dit qu'on a les paroles, les promesses de Dieu qui nous voit déjà comme sauvés, est-ce que les Israélites, pourquoi les Israélites ont-ils complètement échoué? On sait que leur histoire, c'est qu'ils se sont éloignés de Dieu, ils ont été rejetés, il a dû les exiler. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas dire, si Dieu n'a pas été capable de tenir ses promesses pour les Israélites, est-ce qu'il va tenir ses promesses pour nous les chrétiens, qui peuvent inclure les juifs qui deviennent chrétiens, qui deviennent des croyants en Jésus. Et les juifs sont donc ça, il va répondre à cette question. Il se demande aussi quel est l'avantage d'être juif, si la circoncision ça sert à rien, s'il n'y a même pas besoin pour que les chrétiens soient sauvés, qu'est-ce qu'il y a comme avantage à être juif? Et c'était un peu la question que se posaient les disciples dans Acte 15, où ils voulaient savoir si les chrétiens devaient se faire circoncire. En fait, c'était une référence à une alliance, à l'ancienne alliance. Et Paul, Jacques se sont mis d'accord que c'était pas obligé de faire des chrétiens des juifs. Abraham est le père des juifs, il est le père de tous les croyants. Et donc dans ces trois chapitres, il va répondre à ces questions, et en disant essentiellement que l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham dans Genèse 12, c'était une alliance inconditionnelle, parce que lorsque dans la Genèse 12 il est question du sacré du on va regarder rapidement, on en a déjà parlé. L'Éternel, verset 1 du chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles selon de la terre seront bénies en toi. Et au chapitre 15, Abraham tombe dans le sommeil, Dieu le fait dormir, et il va signer Dieu va signer avec lui une alliance, mais il va endormir Abraham. À l'époque, un contrat, une alliance pouvait être signée lorsqu'on on offrait un sacrifice, on découpait le sacrifice en deux parts et on passait les deux personnes qui contractaient l'alliance, passaient au milieu du sacrifice. Et là, en fait, Dieu seul, la flamme va passer entre les deux sacrifices et ça montre qu'en fait, Dieu signe un contrat tout seul avec Abraham. Abraham, il n'a rien à faire, il doit par la foi croire qu'il va avoir une multitude de descendants, qu'il va bénir toutes les nations de la terre. Et cette promesse de Dieu, elle se réalise en Jésus-Christ. Nous sommes au bénéfice de cette promesse que Abraham a reçue. Toutes les nations de la terre, c'est-à-dire même les non-juifs, sont au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. Paul souligne plusieurs autres avantages à être juif, le fait qu'ils ont reçu la parole, ils sont appelés les Israélites, des princes de Dieu, ils sont adoptés, ils ont connu les alliances, parce qu'il y en avait plusieurs, mais celle d'Abraham, c'est celle qui continue. Ils ont reçu la loi, ils ont reçu le temple, la prêtrise, ils ont finalement reçu le Messie. Et il explique aussi que ce juif, en fait, Dieu ne les a pas oubliés, il ne les a pas rejetés. Il va garder ses promesses qu'il a faites à Abraham, il va les garder pour le peuple juif. Il va y avoir un reste, il va y avoir un reste de la nation d'Israël qui va venir au salut. Et ça, ce sera il parle aussi du fait que notre foi, nous avons été comme greffés sur l'olivier qui était original, qui était le peuple juif. Et il explique que Dieu va reprendre son action à grande échelle ou au moment où la totalité des païens sera rentrée. Ça, on en a parlé, c'est la plénitude des païens, c'est Romains 11, 25. Il en est question aussi dans Luc 21, le temps des païens, lorsque le temps des païens sera accompli. Dans le prophète Osée, chapitre 5, verset 15, il y a aussi cette notion qu'il y a un moment où Dieu, après s'être occupé de l'Église, l'Église qui sera enlevée, qui pourra compter des Juifs qui seront venus à Christ, mais sa promesse s'accomplira après que la plénitude... C'est-à-dire qu'il y a, quelque part, Dieu connaît le dernier païen qui va être sauvé, et tant qu'il ne sera pas sauvé, Dieu va continuer par l'Église à faire grandir son peuple. Et c'est ce qu'on appelle des fois la plénitude des païens où le temps des païens sera accompli. Donc quelque part, il y a la dernière personne à sauver et ça serait bien si... Parce que dès que cette personne sera sauvée, le calendrier de Dieu va se remettre en marche. On a parlé des promesses de Daniel, du prophète Daniel. On y reviendra quand on parlera de l'Apocalypse. Voilà, ça c'est la parenthèse, et le reste du livre, c'est des exhortations pratiques, c'est comment vivre, et c'est ce que vous avez, je crois, vu déjà dimanche dernier, ça tombe bien. Il y a plusieurs aspects, la responsabilité qu'on a avec nos dons, devant les autorités civiles. Il parle de maturité chrétienne, il parle des forts et des faibles. Les forts, ce sont ceux qui n'ont pas besoin du légalisme pour grandir dans la foi, qui sont libres en Christ, qui peuvent s'abstenir pour le bien des autres, de certaines choses qu'ils pourraient faire dans la liberté qu'il a leur en Christ. Il parle en fait de la maturité. Et puis à la fin, il y a comme à l'accoutumée, des salutations. Il parle de ses projets de voyage. Il aimerait bien aller à Rome. Il aimerait bien aller jusqu'en Espagne. Il va aller à Rome, mais pas dans les conditions qu'il aimerait ici. Il salue plus de monde que dans toute autre de ses lettres. Et en fait, quelqu'un disait que la maturité, c'est lorsqu'on est, on est pressé par les circonstances, on va se conduire de façon semblable à Christ. Quelqu'un disait, quand on presse un citron, on doit avoir du citron, du jus de citron. Quand on presse une orange, on doit avoir du jus d'orange qui sort. Quand on presse un chrétien, qu'est-ce qui doit sortir? Du Christ. Christ. Peut-être pas dans son intégralité, mais c'est la façon de savoir où on en est. À la fin, il dit que c'est... Verset 22, « Je vous salue, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre dans le Seigneur. » C'est pas Paul qui a écrit la lettre, c'est Tertius. En fait, c'est Paul qui l'a dictée, donc il l'a écrit au sens de la responsabilité de l'auteur, guidé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Mais ils avaient tous souvent des secrétaires, et Paul, on sait qu'il avait des problèmes Dieu, donc des fois il dit qu'il signe lui-même. Et... c'est donc une œuvre monumentale qui explique vraiment la foi chrétienne. Et j'aime bien ce que disait un pasteur en disant, on lui posait la question, quelqu'un lui posait la question, vous êtes chrétien? Êtes-vous chrétien? Et il a répondu, mais c'est à vous de me le dire. De savoir que, est-ce que je suis un petit Christ? Est-ce que ma vie est différente? Est-ce que mes réactions sont différentes? Alors on peut être se dire non, pas tellement, mais encore une fois, par cette lettre, on sait que c'est pas par mes efforts, mes bonnes résolutions, mes mortifications, c'est en laissant l'Esprit Saint prendre possession de moi de plus en plus, en laissant la loi de l'Esprit de vie en l'Esprit va permettre de voler et de ne pas être me cracher avec le péché.